Merci, monsieur le directeur, monsieur le directeur général du CNRS, madame la présidente de l'université, je me suis trompé dans l'ordre protocolaire, ça commence bien, madame le maire, monsieur le maire, mesdames, messieurs, chers amis, en science plus qu'ailleurs, je crois, il est de mauvaise méthode de mélanger les torchons et les serviettes, de se tromper de casquette et de mélanger les rôles. Je ne suis hélas pas physicien, ce qui fut d'ailleurs l'un des malheurs de la vie de mon père, il en a que du peu, mais celui-là était considérable. Et par conséquent, je ne ferai pas semblant. Mais je suis en train de vivre des moments d'intense émotion. Porter toute sa vie la fierté d'avoir un tel père est évidemment une chose gratifiante, mais un peu lourde. Mais j'ai reçu ce bénéfice formidable ma vie durant. Lui, il a vécu différemment, puisque non seulement... J'étais ignapte au sens exact, ce dont il avait conclu un peu vite à une extinction générale de mes capacités mentales, qui a un peu détérioré nos rapports, au moins dans la première partie de mon existence à moi. Et je ne sais pas si tel ou tel de ses élèves, associés dans la démarche que je vais compter, se trouve dans la salle, mais je suis obligé de, par loyauté, de vous raconter l'histoire de notre réconciliation. Je me suis trouvé, la politique fait n'importe quoi, c'est bien connu, madame le maire, monsieur le maire, méfiez-vous, je me suis retrouvé ministre de l'agriculture, et donc tuteur d'un conseiller, oui, l'agriculture, moi qui étais né à Courbevoie dans le béton, et qui avait du mal à distinguer une vache d'un cheval. Je me suis donc retrouvé tuteur d'un très grand établissement de recherche avec lequel je viens d'avoir que le LAL a au moins une coopération de travail. Il s'agit de l'INRA, bien entendu. Où se trouvaient un ou deux élèves, anciens élèves de mon père au travail. J'ai dû traiter cet établissement de manière assez convenable. Bref, un jour, il y a eu une délégation. Je crois qu'ils étaient trois ou quatre. Votre sourire me laisse me demander si vous n'êtes pas dans le coup. D'anciens élèves de mon père qui sont allés le trouver pour lui dire de tenir à peu près ce langage. Monsieur le professeur, faut plus dire ce que vous dites de votre fils. Il est moins bête que vous ne croyez. Il réussit pas trop mal. Ça a quand même un peu changé les choses. Et quand je suis devenu Premier ministre, là, la rigolade fut intense. Mais au-delà de l'émotion de ce moment, je note que l'héritage de mon père a quelque chose d'encombrant. Et d'abord, j'ai une question fonctionnelle sur la nature de cet objet. S'agit-il d'une seule évocation personnelle du professeur Rocard, qui en avait fait l'emblème du laboratoire de physique de l'École normale supérieure, ou est-il, cet objet est-il devenu le logo du LAL? Auquel cas, ça me compromettrait, puisque bien sûr, par héritage, ma maison est pleine de chouettes, c'était un oiseau remarquable. Mais on n'est pas impunément héritier d'un personnage aussi encombrant. Je dois d'ailleurs rendre hommage à la vigueur de sa pédagogie. Je n'ai pas été vraiment son élève, mais enfin, un fils est toujours un peu sujet à la pédagogie du père. Et dans le résultat final, il faut juger de l'efficacité de sa méthode, même si elle avait un caractère un peu ferme. En revanche, je voudrais vous associer à participer à la difficulté qu'il y a à partager son héritage intellectuel en matière de sarcasme sociétaux, si j'ose dire. Il avait l'humour absolument ravageur. Et cet homme qui était, il m'a fallu longtemps pour le découvrir, profondément bon, était capable devant tout ce qu'il soupçonnait de médiocrité, d'une méchanceté terrifiante. Et il avait notamment érigé en principe de vie la critique permanente et argumentée des inventions de procédures excessives qui empêchaient les autres de travailler. Je suis dans l'incapacité intellectuelle de lire aucune de ses publications, sauf une, qui s'appelait « Coordination ». Et si vous ne connaissez pas cette mise en équation des facteurs d'empoisonnement de la vie d'un chef de laboratoire, je vous recommande la mise en équation du temps perdu, des mots inutiles, des échelons hiérarchiques ne servant à rien. Tout ça est infiniment réjouissant. Il faut donc vivre avec l'héritage intellectuel. Je voudrais citer trois de ces phrases. Et comme il faut bien s'amuser un peu, que je ne suis pas là que dire du bien de la physique en général, il faut que je vous encombre vous-même de l'héritage de ces phrases. L'un de ces aphorismes préférés était « Il faut supprimer le CNRS ». Monsieur le directeur général, Je suis complètement désolé. C'était une allusion un peu brutale que je n'ai pas partagée. J'ai eu la chance de me trouver occupé des responsabilités politiques dans une chaîne de décision qui vous concerne. J'ai préservé le CNRS. Lui pensait que l'allègement de toutes les chaînes hiérarchiques était probablement un encouragement au travail des physiciens. Je vous laisserai dans le doute. Je me garderai bien de conclure, mais je vous donne cette référence. Une autre phrase qui m'a fait beaucoup tracasser était, je l'ai entendue celle-là dans ma jeunesse, dans les années, est-ce qu'il a dû dire ça, dans les années 62-63. Écoutez bien, je jure que c'est vrai, il y a trop d'argent dans la physique. Pardon, erreur de citation. Il y a trop d'argent dans la recherche. Il avait inventé un concept, et je suggère que l'évaluation de la validité présente ou caduque de ce concept mériterait intérêt. Il avait découvert que dans n'importe quelle situation de rapports interhumains, un chef n'est capable d'utiliser activement le travail que de 3 ou 4 collaborateurs et guère davantage. Ou plutôt, non, la phrase disait, un chef ne peut utilement manipuler un chiffre d'affaires que de l'ordre de 3 ou 4 fois son salaire. Ça voulait dire que le constat selon lequel, quand on divisait, par exemple, la somme des salaires de tous les travailleurs du LAL ou de ceux du CERN, ils s'amusaient à ça, par leur nombre, on retrouvait pour chacun des responsables d'unité de base ce coefficient qui valait aussi pour un chef d'atelier dans les laboratoires de l'école de physique, de l'école normale supérieure où j'ai moi-même travaillé comme apprenti tourneur, puisque il avait découvert que j'étais inapte aux sciences exactes, mais il voulait que j'apprenne quelque chose qui me résiste, et il ne restait plus que la matière, bien entendu, dans l'océan de ma médiocrité intellectuelle. Cette loi s'appliquait là, comme elle s'applique à un cabinet d'avocat ou de médecin. C'est une bonne manière de gérer la relation entre les nombres d'hommes et les pyramides hiérarchiques avec le volume des crédits. J'avoue m'être inspiré un peu de cette loi de temps en temps, donc je ne crois pas qu'il faille la considérer fausse, mais elle serait probablement un bon guide pour vous. En tout cas, vous n'en avez peut-être guère le souvenir, mais j'ai tenu à honneur dans les fonctions politiques que j'ai occupées, pas seulement celle de ministre de l'Agriculture, un peu l'étage au-dessus, d'honorer la recherche d'un souci qui n'était pas la traduction synonyme de la phrase de mon père. Ça, c'est bien perdu depuis. Parce que vous autres chercheurs avez un grand inconvénient. Vous n'avez jamais réussi à créer dans ce pays un lobby électoral suffisamment puissant pour vous faire respecter. Je suis obligé de reconnaître que dans le milieu extrêmement contraint de forces contradictoires et antagoniques dans lequel naviguent les responsables politiques, le milieu de la recherche n'a pas su se faire représenter et vous êtes automatiquement les premiers sacrifiés de toute mauvaise passe de stratégie budgétaire ou autre. Voilà ce qu'était mon père dans cette drôlerie, dans cette sauvagerie. Il répétait toujours, ça ce sera moins toxique pour ceux qui sont ici. Une phrase qu'il avait appréciée, qui était de Georges Clemenceau, de 1919, et qui était « Vous voulez empêcher l'Allemagne de se relever, créez-y une école polytechnique. » C'est donc l'héritage de cette joyeuse méchanceté que je porte avec moi. Mais elle était compatible avec une inventivité totalement gigantesque, dont j'ai eu, moi aussi, l'épreuve en famille. Je terminerai en ne racontant que la plus jolie, mais non sans rappeler, d'autre part, que dans l'exemple que mon père, assez brutalement, mais quand même, a fini par me donner, la dimension de son génie scientifique est une essentielle. La dimension de son courage dans la résistance ne l'était pas moins. Il a été... Alors, il y a d'abord quelque chose de sidérant pour un vrai... Je prétends être un vrai politique, permettez-moi ce moment d'arrogance, de faire en septembre 1940 l'analyse géopolitique que la victoire ne pouvait pas échapper aux alliés qui allaient incorporer au futur les États-Unis d'Amérique. Pour un physicien assez égaré des sciences de l'homme, de l'histoire et même de la géographie, le raisonnement était pas mal. Il en a tiré des conclusions au risque fou de ça. Je ne raconterai pas, mais cette dimension est un complément utile à ce qu'on sait de la brutalité du personnage. Mais le plus joli, c'est son rapport avec les structures. C'est, je crois, madame la présidente de l'université qui a fait une allusion à son invention statutaire ou structurelle à propos du LAL. Méfiez-vous là. Son invention était comptable aussi, un peu dangereuse. Et je me souviens d'un jour où, jeune inspecteur des finances, je venais d'être affecté à une grosse brigade qui était chargée de vérifier les grands instituts scientifiques. J'étais déjà marié avec deux enfants, et puis la réconciliation de la délégation de ses anciens élèves n'était pas encore intervenue. Nous étions toujours dans une période de froideur de rapport, mais quand même, dîner en famille une fois tous les trimestres, le hasard veut que nous soyons à la table familiale quelques jours après cette annonce. Alors il me regarde d'un air mauvais, et me dit, toi tu vas devenir dangereux, écoute, je vais te raconter ce que font quelques-uns de mes pauvres collègues. Le doyen Roubaud de l'université de Nancy a été condamné en cours de discipline budgétaire parce qu'on a trouvé dans les frais de fonctionnement de son université, de son école des mines, dont il demandait le remboursement à l'État, des frais de transport urbain pour le personnel de ses labos qui représentaient un peu plus que le temps qu'aurait représenté la présence 24 heures par jour et 365 jours par an de la totalité des personnels dans les tramways de la ville. La bizarrerie était que les frais avaient été payés parce qu'il y avait des pièces à conviction. Et l'enquête a montré que le doyen Roubaud subventionnait, enfin payait, rémunérait, deux malheureux sans le sou, qui munis d'une pelle et d'un petit balai, ramassaient les tickets de bus près des stations de la ville. Histoire un peu sinistre. Et mon père m'en raconte une autre après qui concerne Grenoble, ses grands rivaux en matière de prix Nobel, comme vous savez, je n'insisterai pas sur l'émulation, notamment avec c'est Néel qui était à Grenoble, je crois, et me raconte que là, on y allait plus grandement, c'est une société privée qui avait été fondée par des personnels publics, travaillant dans des locaux publics, achetant ses fournitures comme achat public, et qui vendait sur le marché les produits de sa modeste activité pour continuer les travaux du laboratoire. Et mon père me raconte tout ça, nous sommes en pur scandale comptable, naturellement. Alors je lui dis, bah, évidemment, c'est vrai, c'est scandaleux, mais et toi ? Réponse. Mon cher fils, il ne disait pas ça, il est mon vieux, je crois bien. Tu deviens dangereux, je ne peux pas te dire. Je t'ai fait l'amitié de te décrire comment les petits artisans de la chose travaillent. Moi, je suis un industriel. Et sort une expression extraordinaire pour un inspecteur des finances, le chiffre d'affaires de mon labo. Le chiffre d'affaires de mon labo est à peu près 5 fois le montant de mes contrats, de mes subventions. Alors, que s'est-il passé ? J'ai convenu intellectuellement que mon père, en dehors de la physique où il avait toujours raison, sur ce point, les sciences générales de la vie avaient aussi raison, et j'ai admis que je grandissais dans un corps dont le pouvoir interdictif était total, c'est très puissant l'inspection des finances, et dont le pouvoir reconstructeur était nul. Monsieur le directeur, mesdames et messieurs, monsieur le directeur du CNRS notamment, la fin de l'histoire, c'est que le samedi suivant, j'ai raconté tout cela à la réunion d'état-major de l'inspection des finances en train de préparer cette brigade et arraché la décision savoureuse de ne pas faire la vérification de nos grands instituts scientifiques. Ce qui probablement a quelques rapports avec le fait que nous sommes là ensemble aujourd'hui. C'est ce qui fait que malgré mon indignité dans les sciences exactes, j'espère avoir quelques crédits auprès de votre indulgence. Mais on ne saurait faire marcher les choses uniquement comme ça, et c'est avec tout ça qu'il faut gérer l'héritage de celui qui s'appelait lui-même l'illustre savant. Il adorait cette expression, c'était un blagueur absolument invétéré. Voilà ce que je voulais que vous sachiez de lui. C'est un héritage plutôt encombrant, mais assez joyeux somme toute, car il avait autant d'humour que de science. Merci de lui avoir donné ces quelques mots.